Mais Laura, pendant le confinement, avec le théâtre à Gand, le théâtre national dans cette ville flamande, donc Gand, que vous dirigez depuis 2 ans maintenant, vous avez posé la question à plus d'une centaine de gens de théâtre, intellectuels, artistes, pourquoi le théâtre? Why theater? Est-ce qu'il y a des réponses qui vous ont étonné ou soulagé ou rassuré?
Ce que pour moi est intéressant, c'est la diversité des réponses, parce qu'on l'a vraiment demandé, pas seulement à des Français ou des Flamands, ou des Européens, mais à des Japonais, à des Russes, à des gens de l'Amérique latine, à vraiment toutes sortes de personnes, plutôt des activistes, mais aussi des vieux faiseurs de théâtre. Alors c'était très très divers ce qu'on a eu. Pour moi, ce qui m'impressionne toujours le plus, c'est que quand quelqu'un raconte une histoire ou peut-être quelque chose qu'il a vu ou une mémoire de travail, quelque chose de très concret. Ça, j'aime beaucoup. Il y a eu plusieurs comme ça. Mais il y a aussi eu des petits manifestes, il y a eu des images, il y a eu de tout. Je crois que c'est le livre le plus complet sur le théâtre qui, global, qui existe en ce moment. Je crois que c'était un très bon moment de demander ça parce que les gens avaient du temps pour réfléchir. Il y avait presque tout le monde a répondu.
Et vous, vous avez répondu quoi?
Moi, j'ai répondu aussi. Moi, j'ai justement, parce que je connaissais les autres textes, j'ai répondu aussi avec deux, trois petites mémoires de moi-même, des choses que j'ai vues sur scène, qui m'ont influencé, que j'ai pas pu oublier.
Il y a une chose que vous pouvez nous raconter?
Alors, il y a par exemple une très belle chose. Il y a une pièce dont j'ai fait une sorte d'adaptation dernièrement, il y a quelques semaines au Festival de Salzbourg, The Everyman. C'est une sorte d'allégorie médiévale, une très très mauvaise pièce, très très ennuyante. Il y a juste des personnages allégoriques, alors la croyance par exemple, les valeurs. Mais il y a là-dedans, il y a la mère du Everyman qui doit mourir. Et la mère, pour exprimer sa douleur, elle fait rien d'autre de passer de tout droit de la scène à tout gauche, très très lentement. Elle dit rien. Ça prend 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et c'est super impressionnant. C'est vraiment un moment qui exprime. Et pour moi, c'est typiquement théâtre. Par une présence, par un mouvement, par un silence, que quelque chose se raconte qui n'est pas raconté littéralement par la langue, par un concept.
Il est 20h sur France Culture et on ne pourra pas dire qu'on n'a pas vu. Milo Rau fait de nous, spectateurs au théâtre, des témoins du monde tel qu'il est, aussi scandaleux que cela puisse apparaître. Milo Rau entre toujours avec des questions sur la scène. Elles sont souvent formulées aux spectateurs. Il a été l'élève de Bourdieu et de Todorov. À 13 ans, il lisait Trotsky et du journalisme, il lui reste l'attrait physique et irrépressible pour le réel et son mystère et ses tragédies. Milo Rau réinvente du temps, c'est ça que le théâtre lui permet. Chaque fois, il rembobine, il fait rejouer, reconstituer pour traverser la violence ou le mystère, encore et encore, et nous en faire témoin. Il a mis sur scène l'affaire Dutroux, la radio rwandaise et sa propagande génocidaire, des faits divers. Le dernier, pour la pièce Family, est irrésolu. En 2007, une famille dans la banlieue de Calais est retrouvée morte, les parents et les deux enfants se sont pendus. Ils ont laissé une note, on a trop déconné, pardon. Et c'est tout, et pas de crise, et pas de rupture, et pas de difficultés apparentes. S'il n'y a pas d'histoire, alors on représente quoi? Et pourquoi vivre et ne pas mourir? Qu'est-ce qu'on peut encore réparer? Milo Rau met en scène une vraie famille, deux comédiens et leurs deux filles adolescentes, qui montent sur scène pour la première fois. La famille joue cette famille et leur dernière soirée. Milo Rau a profité du confinement pour poser la question « Pourquoi le théâtre à travers le monde ?» Il avait déjà, avec son manifeste de Gand, il y a 2 ans, répondu par « On n'en est plus à représenter le monde, il faut le changer. » Et on réalise qu'on n'en est plus à être spectateur, on ressort à la fin de la pièce encore plus acteur dans le monde.
Thank you.
Nous sommes avec Milo Rao, qui dirige le Théâtre National de Gand et présente au Théâtre des Amandiers à Nanterre, dans le cadre du Festival d'automne, du 3 au 10 octobre, sa nouvelle pièce « Family ». En studio avec nous, Matt Elliott. Son dernier album est sorti juste avant le confinement, « Farewell to All We Know ». Il semble être prophétique, puisqu'il dit adieu à ce que l'on connaît. Il est surtout sublime, comme à son habitude, entre profondeur et lumière. C'est tous en scène sur France Culture. On commence au Théâtre des Amandiers à Nanterre, installé avec Milo Rao dans le bureau du directeur Philippe Ken. Et on repart de cette question posée à 106 artistes à Gand pendant le confinement. Pourquoi le théâtre ? Et cette question, pourquoi le théâtre ? Ou en tout cas, chaque fois que vous vous posez des questions sur le théâtre, j'ai l'impression que c'est présent à l'intérieur des pièces, puisque les comédiens posent des questions. Dans le précédent spectacle, la reprise, Johan Lesson disait, je crois, à quel moment commence la tragédie, à quel moment on devient le personnage. Donc les questions que vous posez, elles sont toujours, elles sont présentes dans les pièces.
Oui, je fais peut-être toujours des pièces qui questionnent le théâtre comme forme politique ou comme forme dramaturgique. Et c'est évidemment une bonne question si on fait un peu le théâtre comme moi, comme un essai de toucher au réel vraiment, à la situation dans laquelle on se trouve, et on se trouve entre le réel et entre l'illusion. Alors à quel moment on se trouve vraiment sur la ligne entre les deux, là où se passe le théâtre? Parce que si on est dans le réel, on est dans le réel, si on est dans l'illusion, on est dans l'illusion, et le théâtre c'est le borderline entre les deux. Et c'est ce qui m'intéresse. Alors, c'est quand que ça commence? Ça finit quand? C'est aussi des questions techniques, évidemment. Mais après, juste représenter des choses, juste faire la performance, juste parler sur quelque chose. Là, je peux écrire un livre, je peux faire un film. On n'a pas besoin de la présence de 400 personnes dans la salle, avec les acteurs sur scène et tout. Surtout pas maintenant, pendant Corona. On a commencé à faire plusieurs films. J'ai fait 3 films pendant le lockdown. Parce que là, c'est simple, mais le théâtre, c'est différent. Et c'est ce que je me suis demandé, mais si on retourne dans cette salle, pourquoi? Pourquoi on ferait ça? Quel est le sens politique, le sens existentiel de ces maisons, en fait, de ces structures qu'on a héritées du 19e siècle? Alors, c'est quoi, en fait, le théâtre?
Et depuis ces 3 dernières pièces, vous vous intéressez aux faits divers? Et je crois que c'est Sandra Ars qui disait le fait divers, c'est intéressant parce que c'est la question jusqu'où l'homme peut aller. Est-ce que c'est cette question-là qui vous intéresse dans le fait divers?
Oui, ce qui m'intéresse dans le fait divers aussi, c'est la coïncidence. Alors, ce n'est pas des motivations qui sont préparées pendant des années, des générations, et après il y a une guerre avec des rois et tout. Mais c'est juste, par exemple, dans la reprise, il y a quelqu'un qui sort d'un café de nuit, il y a 2 autres, 3 autres qui s'arrêtent avec une voiture, et la tragédie commence. C'est comme Oedipe qui croit son père sur une route, sans savoir que c'est son père, et la tragédie commence. Et l'idée de la coïncidence, ou même du nihilisme m'intéresse, du banal. J'ai pas cherché des choses, peut-être la pièce sur Dutroux, c'était quelque chose qui était connu, là je me suis intéressé au, disons, au sous-conscient culturel, mais ici, dans Family, mais aussi dans la reprise, je me suis intéressé vraiment aux derniers des faits divers. Alors aux choses qui sont étrangement banales et on dirait même une telle manque de motivation. Par exemple, cette famille qui se pend et ils ne sont pas malades, ils ne sont pas fous, il n'y a même pas de divorce, il n'y a rien. Alors on se demande, mais pourquoi pas mourir nous-mêmes aussi? Pourquoi vivre, en fait? Alors des faits divers qui posent la question d'une façon de dégraisser en haut, en fait. Pourquoi? On va aussi la question de la représentation, parce que s'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas d'histoire, alors on va représenter quoi? Et là, on est aussi au degré zéro de la représentation. Alors comment représenter une soirée de famille banale qui finit avec la mort? Mais comment raconter ça avec une vraie famille, etc. Alors c'est un expériment de théâtre aussi.
Family, donc vous en parliez, c'est à partir de ce fait divers assez incroyable, parce que complètement en effet mystérieux, irrésolu, en 2007, de cette famille près de Calais qui les deux parents, les deux enfants qui se pendent, et il n'y a aucun motif, enfin en tout cas personne ne comprend pourquoi, et pas de problème financier, pas de crise préalable. Et pour ça, vous cherchez une vraie famille, enfin, vous travaillez souvent avec des acteurs et professionnels et non professionnels. Qu'est-ce que pour vous ça apporte le fait que sur scène ce soit une famille, une vraie famille avec les parents et les deux jeunes filles qui montent pour la première fois sur scène?
Moi, je crois que je suis aussi ethnographe, évidemment. Et si je fais une pièce sur une famille, alors si tu es dans une vraie famille, tu aurais une expérience de 20 ans, de petits gestes, de petits comportements que tu n'auras pas si tu es acteur. Tu peux jouer ça, mais après, faire l'illusion que tu es une famille avec des acteurs, pour moi, là, on est tellement loin de la vérité artistique, de la vérité des gestes, de la vérité de l'atmosphère d'une vraie famille, que je trouve l'acte sans aucun sens. Pourquoi demander des acteurs de jouer une autre famille? Mais demander une famille de jouer une famille qui se pend, demander des parents de se pendre chaque soir sur scène avec les deux teenagers, alors c'est un acte fou. Et c'était aussi quand c'est sorti à Gand, premièrement, ça provoquait une longue discussion en fait. Parce qu'on s'est demandé, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Parce que, de surplus, c'est une famille très très connue qui joue ça. C'est les acteurs les plus connus, les parents. Et puis il y a les enfants qui n'étaient jamais sur scène. Et on s'est demandé, mais normalement, vous jouez dans les séries télévisées, vous jouez dans des grands films, et maintenant vous vous pendez chaque soir avec vos deux enfants. Mais
qu'est-ce que
vous voulez vous raconter? Les gens se sont demandé, mais qu'est-ce que vous voulez nous raconter à travers ça? Et si on regarde la pièce, on va voir que si on regarde de proche sur cette famille, et on regarde de proche en fait sur le nihilisme de la pièce qui dit mieux mourir que continuer, je veux dire dans un sens écologique, c'est assez clair, dans un sens existentiel, si tu es teenager, ça semble être assez clair aussi. Mais après, c'est aussi une pièce qui est construit sur la beauté de la banalité, tu pourrais dire. La beauté d'apprendre l'anglais, la beauté de regarder la télé, la beauté de manger ensemble. Et aussi, évidemment, la mélancolie que tout ça va finir. Et c'est quelque chose qui est pour moi était intéressant. J'ai deux enfants, deux filles de vraiment le même âge, presque un peu moins âgées. Mais évidemment, c'est aussi une famille qui est, parce qu'ils grandissent, qui est en dissolution. C'est pas tragique du tout, c'est normal. Mais quand même, il y a quelque chose là-dedans qui est dur et qui est inexplicable. C'est aussi dur pour la génération des jeunes qu'ils sont confrontés avec un monde qui est complètement catastrophique, si tu veux. Peut-être pas tellement catastrophique qu'on pense, mais il y a, par rapport à notre civilisation, la rhétorique que moi j'ai encore appris, que eux ils apprennent encore à l'école, l'idée du succès, tout ça, ça marche plus, c'est fini. Et je voulais faire une pièce sur, en fait, la fin de la bourgeoisie, si tu veux. La fin de ce grand rêve de peut-être presque 2000 années. C'est pas la bourgeoisie, mais du capitalisme européen, où il y a quand même une vision du futur, il y a une sorte, la famille qui est le nœud, etc. Et tout ça ne fonctionne plus. Tout ça est vraiment fini. Et je fais cette pièce pour ça. Et je crois que quelqu'un a écrit que c'est un peu comme En attendant Godot, mais sans blague. Alors c'est vraiment, il y a peut-être quelques moments qui sont un peu drôles, parce que aussi les deux chiens de la famille sont sur scène, alors ça fait quand même des moments un peu absurdes. Parce qu'ils comprennent pas trop.
Ils vont rester les chiens.
Ils jouent les chiens, ils sont les chiens, alors eux, ils sont vraiment au degré zéro de tout. Et ils se demandent un peu pourquoi chaque soir ils sont dans ce fake appartement, mais il aime bien. Je crois que c'est difficile d'aller encore plus loin dans le quotidien sur scène. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je voulais toujours faire une pièce qui s'appelle « La vie privée » et où tu regardes juste dans un appartement. Et après, parce que là, tu sais, ça finit avec la mort, tu vas regarder d'une autre façon. Tu vas comprendre que la vie, c'est quelque chose, chaque seconde, chaque minute, chaque soirée, quelque chose que tu vas oublier tout de suite quand ça s'est passé, tu vois. Alors, sous la perspective de la mort, tu regardes le quotidien, la famille, les relations un peu simples, et tu vas trouver beaucoup de choses là-dedans. Évidemment, tout ça est construit, mais ça fait quand même l'impression du quotidien.
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling?
Comment on tue le temps? C'est quoi tuer le temps? Et vous parlez du banal et de la... Et pourquoi il faut tuer le temps? Et ça, c'est assez fort comme expression. Et c'est surtout l'adolescente la plus âgée. On a l'impression qu'il incarne, puisqu'elle est dans ce moment de la vie où, justement, elle cherche un sens à la vie et elle n'est pas sûre de le trouver. Et elle pense, d'ailleurs, elle a pensé au suicide. Enfin, elle le dit. Et c'est très troublant parce qu'à ce moment-là, on se dit, mais c'est la comédienne, enfin, c'est la réelle jeune fille qui parle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tuer le temps, et pourquoi tuer le temps? Il faut tuer le temps parce qu'il est trop lourd, trop lent, trop. Je sais pas, c'est assez fort comme idée de théâtre.
Oui, oui, je crois qu'il y a dans chaque vie de, disons, de la classe bourgeoise, ou petite bourgeoise dans ce cas, il y a ce moment où on n'a pas envie d'entrer dans cette sorte de carrière et de l'autre côté, on va le faire quand même. Mais il y a quand même peut-être entre, je ne sais pas, 15 et 20 ans, il y a cette phase où on n'est pas prêt, on ne veut pas, on a un désir existentiel qui va beaucoup plus loin que ça. Ça va toujours revenir, on a perdu la sûreté de l'enfance, on n'a pas encore trouvé le travail ou quelque chose qui est en dehors de la famille, on est entre les deux. C'est un moment existentiel extrêmement intelligent, d'une façon de pour comprendre la tragédie de la vie qui finit avec la mort et avec la possibilité du choix de dire « mais pourquoi attendre ?» C'est l'autre fille qui dit ça, 50 années, 60 années, si je peux finir maintenant. Maintenant c'est pas mal, alors je finis maintenant. Et c'est des choses qui m'ont fait, pourquoi j'ai fait la décision de donner le rôle de la narratrice à la plus âgée des enfants. En fait, c'est une pièce sur des teenagers aussi. C'est quelque chose qui m'a intéressé aussi, parce que je travaille sur des enfants ou avec des enfants. Je travaille évidemment avec des adultes. J'ai même travaillé avec des animaux et avec des objets, mais je n'ai jamais travaillé avec des teenagers pour des raisons un peu par hasard. Et là, je me suis dit, mais c'est super intéressant. C'est vraiment un état de vie, oui, voilà, le plus dense, le plus Camus style. Et pour moi, dans la pièce, on a fait un film de la pièce il y a quelques mois. Elle va sortir au cinéma le 15 octobre. Et il y a quelque chose dans la pièce que dans le film, tu perds totalement, évidemment. Tu gagnes la claustrophobie parce que tu n'es pas plus dans l'illusion du théâtre. Tu vas vraiment croire que cette famille va maintenant se tuer. Mais pour moi, vraiment, l'acte que eux, ils sont partie comme une famille sur scène pour nous raconter cette allégorie que la mort est mieux que la vie, et en même temps elles se contredisent dans la pièce parce que c'est vraiment une pièce sur les petites choses. C'est en fait là, au début on avait cette Favorite Things du musical là-dedans, et la pièce commence et finit avec l'énumération des choses qu'il aime le plus. Et ça touche des petites
choses, écouter une musique,
cuisiner, ou le bruit que les pattes des chiens font sur le parquet, des choses vraiment
quotidiennes,
et alors métaphysiques. Et il y a dans le quotidien quelque chose de banal, et de bourgeois, et toutes ces choses un peu triste, mais de l'autre côté, il y a évidemment aussi le métaphysique là-dedans, il y a l'amour là-dedans, il y a la raison pour laquelle on le fait, même dans le répétitif chaque jour. Mais je crois qu'il y a d'une autre façon, et c'est la pièce sur ça, il y a d'une autre façon de vivre, il y a comme un trou noir, il y a quelque chose qui se laisse plus réparer. Et je crois que c'est notre temps qui a vraiment compris ça, que ça se laisse plus réparer, que c'est fini un peu, peut-être 2 générations, 3 générations, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui est irréparable pour toujours. On est, comme civilisation, on est morte. Et c'est, ou comme des zombies, on continue à marcher, évidemment. On a vu ça après Covid, pour moi c'était un grand choc, comment on a recommencé tout de suite à marcher comme avant, même un peu plus vite pour gagner le temps qu'on a perdu avant, pendant les 6 mois. Et alors il y a quelque chose qui nous rend impossible de prendre la décision que cette famille prend.
Et les parents ont l'air assez démunis d'ailleurs dans la façon, enfin, qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a transmis.
Cette famille qui s'est suicidée et cette famille qui joue le suicide, ce sont des familles au sens économique médiocres, demi-riches, on dirait. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, mais il y a quand même une idéologie qui nous traverse tous et c'est en fait ce qu'on a transmis. Et évidemment, des parents qui disent, mais on ne leur a transmis rien, on ne leur a appris rien, on est allé en vacances en Autriche, on a fait ça, on a fait ça, mais pour leur apprendre quoi dans ce moment de la catastrophe climatique? Alors, qu'est-ce que je peux leur apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre à mes filles de la violence de l'humanité, de la violence de l'économie? En fait, rien. Je ne peux même pas les sauver. Alors, il y a une... Avoir des enfants, c'est, du point de vue des parents, c'est quelque chose de... Ça peut être super traumatisant. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans. Et c'est aussi quand j'ai parlé une fois du père des 2 enfants, parce que moi je suis vraiment dans la même situation, quand on a le film, il a dit peut-être, et c'est étrange, que quelquefois, quand il joue le suicide, qu'il a pensé peut-être que c'est vraiment la meilleure des choses. De mourir après une belle soirée comme ça, c'est peut-être la meilleure des choses qu'on peut avoir. Ça semble maintenant un peu romantique et tout ça, et c'est romantique parce que la mort est la mort. Et c'est pour ça aussi qu'on montre la fin vraiment dans tous les détails, et ça dure, et les corps se battent en fait contre la mort, parce que c'est quelque chose de physiologique. Ils ne s'intéressent pas pour les décisions de nos cerveaux, ils vont se battre. C'est une réalité complètement physique. Mais quand même, il y a là-dedans aussi une sorte de beauté simple.
Sur la fragilité de la vie et de son sens, pour accompagner la pensée de Milorau, nous avons invité en studio l'anglais de Bristol, Matt Elliott, qui s'est exilé depuis un moment maintenant à l'est de la France. Il sort son 8e album, Farewell to All We Know. On peut l'écouter depuis quelques mois, c'était juste avant le confinement. Sur la pochette du disque, une silhouette au milieu d'une forêt et la lumière qui perce malgré tout, comme la voix de Matt Elliott qui chaque fois arrive pour accompagner et dépasser la mélancolie, toucher à la beauté et sa vivacité, et malgré lui peut-être, il a l'art d'organiser l'espoir. Il reprend le chemin des concerts, il sera à Lille le 8 octobre, le 9 à Alençon, et puis à Montbéliard, et puis à Toulouse, et puis à Grenoble. Matt Elliott, à quoi avec ce disque vous avez l'impression de dire adieu? Et qu'est-ce que vous accueillez, puisque le titre phare et celui qu'on va entendre là s'appelle « Farewell to All We Know ».
En fait, c'est parce que c'est un peu triste et tout ça, un peu glauque. Peut-être c'est, je crois qu'on a dépassé la limite pour le chauffement climatique et tout ça. Et je crois que ça va provoquer beaucoup de problèmes, vraiment des problèmes sociétals dans ce niveau-là. Donc c'était vraiment ça. C'était juste, on a dépassé la limite, mais je suis triste maintenant quand je vois les enfants. Et ça me rend triste parce que je pense à le futur il va avoir et ou si, même s'il va avoir un futur et ça me rend très triste. Donc c'était vraiment ça, c'était juste parce qu'avant mes disques étaient un peu plus en colère et tout ça. Maintenant c'est une sorte d'acceptance que c'est trop tard et c'est fini, donc profite et attends la fin. Je suis Matt Elliott, vous écoutez Tous en scène sur France Culture avec Aurélie Charron. Thank you.
retour au Théâtre des Amandiers à Nanterre avec le metteur en scène Milo Rao qui présente sa pièce Family. On écoute ensemble la voix d'Ariane Mouchkine parler de la tragédie.
Voir de la tragédie, aller voir de la tragédie, je dirais même écrire de la tragédie, produire de la tragédie théâtrale, c'est lutter contre la tragédie. Et je pense qu'un public qui va voir une tragédie, c'est très bien qu'en allant voir la tragédie, il se donne un millionième de chance de plus de l'éviter.
Dans la dire, il y a un côté exorciste et catharsis en tout cas.
Oui,
pour
j'allais dire, c'est ça la catharsis, exactement. Oui. Et c'est ça la culture, c'est ça la catharsis, c'est ça la culture, c'est ça la civilisation, c'est ça la conscience. Et je crois que la beauté et le plaisir théâtral est fait de ça aussi. C'est-à-dire, on sait qu'on va au théâtre, et à la comédie bien sûr, mais à la tragédie aussi, et peut-être encore plus, pour devenir plus grand, plus humain. Donc, pour connaître mieux le danger de la tragédie qui est présent et ô combien dans notre société, dans toutes les sociétés, et pour se donner les outils, justement, même inadéquates, mais les outils pour l'éviter.
Que la représentation de la violence et de l'acte, en tout cas, vous parlez souvent de l'acte plus que de la représentation. Donc l'acte, là, de la pendaison de la famille, dans Family, il est présent sur scène. Est-ce que c'est ça, la catharsis ? Est-ce que, comme Ariane Mouchkine le dit, c'est voir la tragédie, c'est une possibilité, peut-être, de l'éviter ?
Moi, je dirais oui et non. Parce que, évidemment, si la pièce avec laquelle je suis venu à Paris l'année dernière, c'était Oreste à Mossoul, et c'est la première trilogie qui existe dans notre culture gréco-européenne. Et c'est une tragédie qui a été écrite pour abolir le tragique. Il y a la guerre civile et c'est fini avec la démocratie et tout est bien. Et Athènes finit la guerre civile et la civilisation commence. Alors on a inventé comme un rituel la tragédie, notre culture, pour abolir la tragédie, comme Ariane Mouchkine dit. C'est vrai, mais je ne crois plus que ça fonctionne encore. Je crois, évidemment, seulement avec cette idée de la transcendance, ou de peut-être même d'apprendre quelque chose, de vivre, et de la catharsis, etc., etc., on va construire la tragédie, mais pour moi, il reste toujours quelque chose là-dedans. Dans Oreste à Mossoul, ça ne marche pas à la fin. Les gens ne vont pas pardonner. Ils ne peuvent pas pardonner, parce que c'est impossible de pardonner. En fait, abolir la tragédie, c'est abolir la justice. C'est parce que la tragédie existe, parce qu'il y a le besoin de justice, en fait. De tuer quelqu'un qui m'a tué, de finir la vie, de comprendre la violence. Il y a quelque chose là-dedans. On ne va pas comprendre la mort, on ne va pas comprendre la violence. La tragédie peut, je ne sais pas, peut montrer un héros qui meurt et ça donne du sens, mais la mort ne va pas regarder le théâtre et dire « Ah ok, j'ai compris, on n'a plus besoin de moi, je pars ». Alors ce grand trauma va toujours rester. Et c'est quelque chose que je veux qu'on n'oublie pas que ça reste. Quand j'ai fait le film sur Jésus, l'année dernière, on l'a montré la première fois cette année maintenant à Venise. Là, j'ai tourné la scène de la résurrection, mais j'y crois pas. Après, je l'ai pas monté dans le film parce que ça me donne pas de sens. Alors je me dis, c'est quoi en fait la résurrection, l'abolition du tragique? Pour moi, c'est l'engagement, c'est la solidarité. C'est que quelqu'un peut dire, ah ok, j'ai appris ça, je vais peut-être aider, je vais me solidariser, je vais travailler dans cette et cette façon, je vais changer peut-être un peu pour que la vie devienne plus humaine, mais pas pour que, je sais pas, le tragique disparaisse. Parce que le tragique, c'est notre vie est tragique. Mais c'est fou comment on peut en même temps aimer, penser et mourir. Pourquoi c'est possible? Pourquoi Dieu, en fait, j'y crois pas, mais pourquoi il nous a donné cette dialectique complètement insupportable? Et je crois que la seule façon de supporter ça, c'est d'être en société, d'être ensemble avec d'autres personnes, d'avoir peut-être une famille, de toutes les façons métaphoriques, on peut lire cette idée de famille, peut-être un groupe d'amis, un projet, une civilisation qui donne du sens. Et je crois qu'il y a encore une autre chose qui m'intéresse dans la tragédie, et qui est assez absent dans les tragédies modernes. Il y a, dans les tragédies grecques, il y a toujours la perversion absolue. Par exemple, le plus grand héros de la tragédie grecque, c'est Œdipe, et il a couché avec sa mère, il a tué son père, et c'est vraiment, dans la société bourgeoise, c'est incompréhensible que lui, il est le grand héros. Alors il y a l'acceptance que notre façon de vivre est à fond pervers. Et je crois que ça, c'est la deuxième leçon de la tragédie, que nous sommes basés sur la perversion, nous, comme humanité, comme civilisation de l'Europe. Et c'est aussi une chose totalement traumatisante qu'il faut recomprendre de nouveau et de nouveau, parce qu'on le rationalise toujours. On va dire, ah oui, oui, dans 20 années, il y aura le grand collapse et tout, mais après, on l'oublie tout de suite. Mais il y a une incroyable perversion là-dedans. Et je crois que ça, c'est l'autre chose qui m'intéresse dans la tragédie. C'est pour ça en fait que je crois que l'époque bourgeoise n'a jamais écrit des tragédies, seulement des drames, mais jamais des tragédies. Je crois que c'est George Steiner qui dit la différence entre la tragédie et le drame, c'est que chez Ibsen, un peu plus de droits pour les femmes et tout est bien, un peu plus d'hygiène et tout est bien, mais dans la tragédie, il a couché avec sa mère, il a tué son père, on va pas trouver une solution pour ça, il doit mourir. Tu vois, il y a quelque chose qui est... Tu ne peux pas échapper au tragique, tu ne peux pas échapper à la mort. Je crois que c'est important de ne pas oublier ce fond noir de cette forme.
Et ce n'est pas rien ce que vous proposez de traverser aux acteurs à chaque fois, parce qu'au-delà d'incarner sur scène, ils participent à une enquête presque, ou en tout cas c'est des mois que vous passez ensemble à se poser des questions. Là, vous êtes partis près de Calais avec la famille. Il y a des images dans le spectacle de la maison, de la famille, du centre de Calais. Qu'est-ce qui traverse avec vous ces comédiens et en tant que personne aussi, enfin en tant que citoyen, qu'humain, c'est énormément de questions profondes et difficiles à traverser. C'est pas des répétitions classiques entre guillemets.
C'est vrai. Il y a dans mon travail toujours plusieurs étapes. Il y a des étapes où on va explorer les possibilités qu'on a. J'ai jamais une idée au début. Par exemple, on a exploré l'idée que cette famille joue vraiment une autre famille, mais pas celle-là, mais une autre où il y avait des motivations, il y avait un divorce. C'était très très mauvais, parce que dès qu'il avait des motivations, il jouait des scènes de rupture familiale, c'était complètement ridicule. Et après, par un hasard, j'ai vu répéter une des filles l'anglais, pendant une pause. Et je me suis dit, ah oui, mais ça c'est intéressant, comment elle répète l'anglais. Et après, tout de suite, on a compris qu'il faut se baser sur un cas, et on a trouvé ce cas, qui est complètement banal, où on ne sait rien, où il n'y a pas de motivation. Et c'est quelque chose qu'on a trouvé par hasard ensemble, et je crois que c'est pour ça aussi qu'il faut répéter dans la première phase, comme je le fais, c'est vivre ensemble, passer du temps ensemble. Évidemment, pour ne pas devenir fou, on va faire des excursions, on va faire semblant qu'on fait une recherche, mais en fait, c'est un peu un alibi. Et après, ça s'amorce, s'amorce. Et évidemment, à un moment, on va écrire un script, une sorte de chorégraphie, ou une pièce, et après il y a une mise en scène, hein. il y a quand même, on doit pour que ça marche après, comme une structure, je sais pas, d'énergie et de lumière et tout, il faut faire la mise en scène, mais c'est quelque chose qui vient à la fin, beaucoup de fois il y a des choses qui arrivent, et beaucoup de fois il y a des choses qui sont de textes, par exemple, que j'ai écrit il y a 20 ans. Dans la pièce que je fais, Every Woman maintenant, il y a des textes là-dedans qu'on a trouvés, mais on était au Brésil, on était un peu partout. On a répété pendant 6 mois pour faire une pièce de 1 heure. Alors ça prend, c'est une méthode qui prend beaucoup de temps, mais où tout en fait sur scène est nécessaire. Et pas nécessairement, évidemment, pour le spectateur, mais pour ceux qui jouent. Il y a une nécessité totale. Et c'est pour ça que je n'ai jamais compris. Il y a quelquefois, ça se passe que mes pièces qui sont un peu plus écrites sont adaptées par d'autres metteurs en scène. Et je me dis toujours, vous pouvez faire ça. Il n'y a aucun problème. Mais je ne vois aucun sens pour vous de faire ça. parce que ça, c'est comme l'archive de notre recherche à nous. C'est comme le document d'un expériment que nous, on a fait. Et pourquoi tu ferais la mise en scène d'un expériment qu'un autre a fait? Ça donne aucun sens. C'est comme peindre une image qu'un autre a peint, encore une fois, sans comprendre et tout. C'est, peut-être ça peut être intéressant, je ne sais pas.
On va écouter juste une autre archive. C'est Gaston Jung sur Brecht.
Son théâtre est d'emblée un théâtre critique, d'abord peu contrôlé, peu relié à une philosophie, simplement d'une violence critique. Un théâtre qui détruit les formes habituelles, aussi violent, si vous voulez, que cette espèce de déflagration de ce qu'on appelait le théâtre de l'absurde dans les années après-guerre françaises, par exemple Ionesco ou l'Adamov du premier temps. Mais là, tout de suite, il faudrait noter une différence. À la différence d'Ionesco, qui, comme Brecht, commence au début à attaquer les fondements du monde bourgeois, à dénoncer l'absurdité des mœurs dans le monde capitaliste, Brecht va tout de suite au-delà. D'emblée, il ne se contente pas simplement d'une révolte ou d'une dérision. Il essaye d'avoir un côté positif dans la révolte. Il ne reste pas simplement dans l'idée, mais croit qu'on peut changer ce monde qui ne va pas bien, ou du moins qu'on doit montrer, en tant qu'écrivain, en tant qu'homme de théâtre, les situations sociales et politiques avec leurs rouages telles qu'elles existent réellement.
Je pensais, Milora, au manifeste de Gand, ces 10 points que vous avez écrits en arrivant en 2018 au théâtre à Gand. Et ça commençait par « On n'en est plus à représenter le monde, il faut le changer ». Ça, c'est toujours présent très fort pour vous en tant que metteur en scène et en tant que directeur de théâtre.
Oui, je crois c'est je crois très très intelligent et très court comme il a décrit la façon de travailler de Brecht. Je crois ce qui est différent aujourd'hui, qu'on est confronté avec des États qui sont un peu en défaite, avec des gouvernements qui marchent plus, avec une Europe qui est mal gouvernée. Pendant que Brecht était confronté avec des empires, avec l'empire soviétique, l'empire nazi, etc. Et chez lui, il restait quand même dans la déconstruction, je crois. Nous, on est plutôt dans la construction, encore plus positif, on pourrait dire encore plus dans la pratique. Et c'est pour ça qu'à part de faire des pièces où je critique la bourgeoisie, je suis peut-être nihiliste et violent et pervers, qui est quand même une tendance... que je sens dans moi, qui restera toujours dans moi, qui est humain peut-être. De l'autre côté, je sens une sorte de positivisme, de créer des institutions où une nouvelle pratique peut se faire, qui est alternative à celle qui nous fait nous pendre dans notre cuisine, en fait. Et ça peut être un théâtre, ou ça peut être un tribunal, ou ça peut être... En fait, le nouvel évangile, le film que je fais sur Jésus... C'est aujourd'hui que j'ai écrit et que j'ai lu dans un journal catholique où il en fait un grand essai sur le film et on dit, en fait, c'est pas un film sur l'évangile, c'est le message de l'évangile. C'est en fait, parce que nous, on a essayé de travailler comme si on était, tu vois, Jésus et les apôtres et tout, comme si on voulait vraiment changer la situation dans l'agriculture du Sud, et pas comme si on voulait seulement faire un film. Alors on crée une situation et après on va documenter la situation, mais la situation est importante, qu'elle soit réelle, en fait, qu'il y a vraiment un changement, qu'il y a vraiment un espace dans lequel un autre, disons, une autre façon de collaborer avec les gens et de produire devient possible. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce manifeste où je dis, il n'y a pas... On ne va pas produire et délivrer. On ne va pas dire c'est la première et c'est fini. On va inviter les gens pour les répétitions. On va déconstruire toutes les choses qu'on a construites pour avoir une sorte de professionnalisme où on a toujours le même résultat. Alors pas des textes à la base, alors pas seulement des professionnels, alors pas seulement une langue et un canon national, etc. etc. Je me rappelle, j'ai dû ouvrir le festival de théâtre d'Hollande à Amsterdam pour faire un discours et j'ai invité juste 8 autres faiseurs de théâtre et on a fait le discours ensemble. Et à la fin, quand on était fini, le modérateur est arrivé tout de suite, ça fait quelques semaines maintenant, et il a dit, et maintenant on discute, parce qu'il y a une discussion après. Et nous on a dit non, mais c'est quand même maintenant, il faut changer les choses, il ne faut pas délivrer, il ne faut pas faire maintenant une discussion de 20 minutes et après il y a la... On va juste réfléchir un peu sur ce qu'on a entendu. Peut-être il y aura des questions, peut-être quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais il faut arrêter dans cette folie de production en fait. Et d'utiliser une institution pour produire, parce que c'est quand même, je crois, à mon avis, on est humain seulement dans un projet commun. En fait, dans la solitude, on n'est pas humain. Dans la solitude, on est physique, on est émotionnel, on est plein de choses. Mais c'est dans un projet qu'on va développer vraiment plein de choses, comme l'amour, par exemple. Ça, c'est pas possible. Mais ou la solidarité, ça, tout ça, c'est impossible. Et c'est pour ça que le théâtre est, pour moi, comme une possible manufacture d'une autre façon de produire, en fait.
Et à Gand, l'ensemble du théâtre, vous l'avez ouvert, modifié, changé pour faire entrer des corps contemporains, différents. À quoi il ressemble aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est super divers, on dirait. Et comme maison, on est assez radical. Par exemple, jeudi, on va ouvrir avec présenter une nouvelle statue qui montre le viol d'un colonisateur belge, très très réaliste, contre une Congolaise en 1931. Et on va faire l'inauguration de cette statue en présence du premier ministre flamand. Alors on essaie vraiment de dire, mais cet espace de théâtre national, ça c'est un espace où ça doit se passer, où la politique rencontre l'art la plus radicale, et pas dans le scandale, mais dans l'essai de comprendre. Et après on veut donner cette statue qui est vraiment violemment explicite à des écoles et à des universités, pour ouvrir une sorte de nouvelle petite carrière des études postcoloniales. Parce qu'en fait, si tu es en Belgique, qui est une des forces coloniales les plus cruelles de l'histoire humaine, qui ont tué des millions au Congo, tu peux faire le lycée et tu ne vas pas avoir une seule leçon sur tout ça. Alors c'est complètement fou, hein. On est toutes les je sais pas, tous les sujets qui sont encore, même pas encore abordés. Il y a plein de choses à faire.
Et là, c'est le grand week-end d'ouverture du 1er au 4 octobre voilà. À Gand, au théâtre. Il y a beaucoup de choses. C'est quoi l'école de la résistance?
The School of Resistance, ça c'est quelque chose que j'ai fondé, je crois c'était en mai. Parce que moi, j'étais quand le Covid a commencé, j'étais au Brésil pour faire l'Antigone en Amazonie. Et j'étais invité d'ouvrir les Wiener Festwochen, le festival de Vienne, au Burgtheater, qui est le plus grand théâtre. Et j'ai dit, OK, je vais inviter Kaysara, qui est une actrice indigène qui joue l'Antigone, pour le faire à Vienne. Ouvrir ce plus grand festival germanophone et tout. Alors, il y avait le Covid, elle s'est retirée dans les forêts, moi je suis rentré en Europe, c'était impossible. Et alors on dit, ok, on va maintenant faire un format virtuel, on va ouvrir le Wiener Festwochen virtuellement, et après on va continuer à utiliser ce live stream, à toutes les deux semaines discuter un sujet, parce que ce que j'ai vraiment trouvé dans le lockdown, c'est que tu peux organiser un débat, pas pour 100 personnes qui vont venir parce qu'ils habitent proche, mais pour 6 000 ou pour 10 000 personnes qui sont de partout et qui sont peut-être ceux qui sont concernés. Après, on a invité, par exemple, des activistes de climat des Indes, de l'Afrique centrale, des États-Unis, et on les a laissés discuter. Ou on a fait un autre sur les répercussions de... des entreprises de t-shirts du Pakistan pendant Covid pour comprendre le grand système. Ou par exemple, le prochain va être sur la crise des réfugiés. On a invité des activistes de l'Italie, de la Grèce, etc. Ou un autre, c'est avec les fondateurs de Extinction Rebellion, etc. Alors, on va toujours faire des live streams comme ça. et tout ça dans le sein d'une sorte de département de notre théâtre qui s'appelle l'École de Gand, où il y a des workshops, il y a des livres, il y a des pièces, et il y a des choses plutôt politiques comme celui-là.
On quitte le théâtre des Amandiers pour revenir en studio avec Matt Elliott, qui va nous présenter un deuxième morceau, et celui-là s'appelle Aboulia, Matt.
C'est bon. I submit the world as one. Despise the man that I've become. Silence was all that I heard when you left without a word. Stranded, lost amidst the waves. No more Plato, no more game. I miss you till my dying day. Is this what it's like to crash? Emotional whiplash. I know that you've crashed too. I know your pain and I feel you and those who are just like you. The lost and the lonely, the false and the phony, the gossips and liars, adding fuel to the fires. That shit makes us tired. Tired of living. Tired of trying. Tired of fighting. Of shouting and crying. I envy the dying.
Nous sommes de retour avec Milo Rao au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et vous vous êtes posé la question pendant le confinement, Milo Rao, et si le théâtre n'existait plus, si on ne pouvait plus aller au théâtre, est-ce que vous pourriez faire seulement du cinéma, des livres? Est-ce que vous pourriez vous passer du théâtre si on ne pouvait plus être en présence pendant un moment?
Oui, moi je crois que le théâtre, même si on est écrivain, même si on vit seulement, même si on fait du cinéma, ça c'est assez évident, il y a toujours la mise en scène théâtrale au début. Comment tu veux écrire sur la relation que tu as avec quelqu'un, sur la vie, s'il n'y a pas eu des milliers de situations d'avant qui t'ont appris à peut-être inventer une nouvelle situation qui est fictive? Alors il y a toujours le théâtre. Et le théâtre, c'est pour moi la forme la plus pure de l'invention. Parce qu'il y a des gens qui sont ensemble et ils vont inventer quelque chose. C'est la forme la plus pure, mais évidemment, on peut écrire aussi. Il y a une beauté là-dedans aussi. On peut faire un film. On a fait 3 films pendant le lockdown. Et c'était, pour moi, super intéressant. J'étais heureux d'avoir une famille, par exemple, parce qu'eux, ils pouvaient encore jouer ensemble. Ils avaient encore même plus de temps pour jouer qu'avant, parce qu'ils étaient au lockdown. Et on avait beaucoup de temps de travailler sur le film sur Jésus, parce qu'on avait des matériaux incroyables et on pouvait finir ce film-là. Et heureusement, Venise a eu lieu, parce qu'on n'était même pas sûr que le festival va avoir lieu. Et je trouvais ça super beau. Ça m'a rappelé un peu quand j'étais étudiant, où j'ai fait des études sans savoir pourquoi, sans avoir un projet, sans vouloir même l'écrire à la fin je ne connais pas les mots français, mais d'un papier comme ça. C'était pour moi pas le sens de le faire. Et en fait, c'est quelque chose que j'essaye de retrouver dans le théâtre aussi, cette liberté d'expérimentation où on a le respect, le temps et peut-être aussi la veine artistique et intellectuelle et utopique de ne pas faire des produits, mais de montrer des états de travail. Si on réunit des bons gens, un état de travail peut être super bien. Je dois avouer que moi, je préfère, surtout chez les grands metteurs en scène qui ont trouvé leur style, je préfère mille fois d'aller à une répétition que de voir la pièce, parce que la pièce est toujours ennuyante, presque toujours, mais les répétitions sont super intéressantes. Et ce n'est pas une critique, hein, c'est de ce metteur en scène ou de l'autre, mais c'est la critique du théâtre, en fait, qui est vivant, et c'est super difficile de trouver une forme où on va capturer cette forme. Parce qu'un livre, c'est un livre, et je crois que c'est assez clair comme deal. Mais dans le théâtre, ce n'est pas trop clair, en fait. Avec le public qui est là, les acteurs qui sont là, quelque chose peut se changer, mais est-ce qu'il peut se changer? Alors, il y a quelque chose de très fluide là-dedans. Et de trouver un état institutionnalisé, presque, où cette fluidité peut, comme état normal, vivre. Parce qu'on a établi un théâtre où le théâtre, en fait, a été aboli complètement. C'est étrange, non? Mais on va au théâtre, mais le théâtre, il ne peut pas exister, parce que c'était aboli. Et c'est ce qu'on essaie avec des films et des projets comme ça, d'établir des institutions que peut-être 10% ou 15% de nos produits sont du théâtre. Et sinon, on fait du film et des livres.
Merci beaucoup, Milorao.
De rien, avec plaisir.
Ocean us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die.
On a commencé par la question « Pourquoi le théâtre ?» On a fini avec l'école de la résistance au théâtre. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Duperron pour la préparation, et merci à la technique ce soir, à Élodie Royer, Philippe Mercher et Nadège Antonini. On finira avec les mots du manifeste de Gand « Le but n'est pas de représenter le réel, mais de rendre la représentation elle-même réelle ». Bientôt, il sera 21h, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de la fiction.
Pretty boy, oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next pretty boy. For if we don't find the next pretty boy, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye.